Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue au guide de l'auto. Non, ce n'est pas la douce et mélodieuse voix d'Antoine Joubert que vous entendez. Je suis Germain Goyer. Cette semaine, je suis en compagnie de Louis-Philippe Dubé, journaliste au Guide de l'Auto et à Car Guide.
Salut Germain.
Le volet anglophone du Guide. Bonjour LP, tu vas bien?
Très bien.
Excellent. Plusieurs actualités cette semaine. On commence tout de suite et on recevra un petit peu plus tard Mathieu Roy pour la chronique techno. On a pu voir cette semaine les premières photos de la Hyundai Sonata 2024. On sait que chez les constructeurs coréens, le changement de génération se fait très très rapidement et la nouvelle Sonata n'y fait pas exception. En fait, c'est un rafraîchissement de mi-mandat. On se demande un peu quel est l'avenir de la Sonata, sachant que la IONIQ 6, ben, finalement, devient une berline d'un format similaire, avec une vocation similaire, mais une technologie et une motorisation qui seront bien différentes. Alors, est-ce que ces deux voitures-là pourraient éventuellement être fusionnées? Moi, c'est ce que je vois dans ma boule de cristal, mais bon, je n'ai pas accès au secret du constructeur. C'est des premières images qu'on a vues. Ça donne... On revoit certains airs du Kona qui a été présenté dans les dernières semaines. Donc, un style qui est extrêmement agressif, je trouve.
Futuristique, pour ne pas dire.
Très, très, très...
Futuriste.
Très, très, très futuriste. Et oui, voilà, c'est très agressif, c'est audacieux. Est-ce que ça vieillira bien? Permets-moi d'en douter un petit peu. À l'intérieur, on a quand même fait le plein de technologies, instrumentation numérique. On a ajouter le levier de vitesse à la colonne de direction pour libérer la console, une instrumentation de... un écran multimédia, de 12,3 pouces. On n'a pas dévoilé de détails quant aux motorisations et à la mécanique de cette voiture-là, parce qu'on sait qu'on a en ce moment une gamme qui est variée. On a 4 moteurs, dont une version hybride, hein, on s'en rappelle. Alors, quelle sera la stratégie pour la deuxième portion de cette génération de la Sonata? On en saura assez assurément un peu plus dans les semaines et les mois à venir. De ton côté, tu t'es farci ces derniers jours le budget provincial, donc le budget pour l'année 2023-2024, et tu as relevé, avec un peu d'ironie, le seul point qui concerne l'automobile.
Ben oui, à chaque fois qu'on regarde le budget, on scanne avec nos yeux de passionnés de l'automobile pour voir qu'est-ce qui va changer, non seulement dans l'industrie, mais également pour le consommateur.
On s'attendait peut-être aussi à des changements en lien avec le programme Rouler Vert, là,
oui.
où est-ce qu'on allait diminuer ou bonifier les subventions? Est-ce qu'on allait prolonger? Bref, on s'attendait à des nouveautés de ce côté-là.
C'est des gros programmes qui sont importants. Et puis l'industrie étant aussi changeante qu'elle est en ce moment, que ça transforme constamment, les gouvernements doivent s'adapter. On n'a pas vu de changement de ce côté-là cette fois-ci. Par contre, on a vu quelque chose qui regarde les pneumatiques. Vous le savez, depuis 1999, on vous charge 3 $ par pneu. Un frais, un droit là, sur les pneus qui vise à recycler, pour un programme qui est en charge par Recycle Québec. Et puis, pour être capable de ramasser ces pneus-là et les recycler. Donc, les droits des pneus augmentent de 3 $ à 4,50 $ pour les pneus neufs de voiture.
Aïe, 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 l'inflation frappe fort.
Ben, pour un train de pneus, on voit immédiatement, c'est pas une grosse augmentation, mais il faut mentionner qu'on dit 4,50 $ pour les pneus de voiture et 6 $ pour les pneus de camion. On s'est informé pour voir qu'est-ce qu'on considère des pneus de camion et on regarde, c'est les pneus de 33 pouces et plus de diamètre global. Donc ça, pour vous donner un exemple, Ford F-150 Limited va vous donner un pneu d'environ 32 pouces. Mais si vous allez, par exemple, sur une variante Raptor, une variante un peu plus robuste, un peu plus hors-route, c'est 33 pouces. Donc, vous allez devoir payer ce 1,50 $ de plus par pneumatique.
Voilà une nouvelle d'une très, très grande importance pour les consommateurs d'ici. Et on voit une fois de plus que le provincial accorde énormément d'importance à l'automobile. Du côté de chez Ford, on a tenu une conférence avec les actionnaires et analystes. Et on a été très lucide par rapport à l'état de la situation. Et on s'attend ni plus ni moins qu'à enregistrer une perte de 4,1 milliards de dollars canadiens.
Ça coûte cher l'électrification.
Et oui, exactement. Et pourquoi cette perte-là pour un constructeur si grand comme Ford, par exemple? Eh ben c'est tout à fait simple. C'est qu'on investit massivement dans l'électrification des transports. On avait annoncé il y a quelques semaines qu'on allait augmenter considérablement la production des véhicules électriques. Puis chez Ford, on en a déjà quelques-uns. Il y a le Mach-E qu'on connaît tous déjà, oui. Le F-150 Lightning, et il y a le Ford E-Transit. Oui. La fourgonnette électrique qu'on a tendance à oublier des fois. Et on sait que ça peut être très payant parce que Ford domine le marché de ces petits fourgons-là. On se rappelle des Econoline, il y en avait à peu près partout. Et la demande pour ces fourgons électriques-là est très, très forte. Alors, on veut augmenter la cadence, mais ça, à court et moyen terme, ben, ça vient avec... avec des pertes. Alors, si vous avez vu ces titres peut-être un peu sensationnalistes, ben rassurez-vous, c'est simplement pour donner un élan, finalement, à la production et à la mise en marché de véhicules électriques.
Ben, ça va prendre beaucoup de temps pour ces compagnies-là. C'est pas juste Ford qui fait pas d'argent sur ses véhicules électriques. On pense seulement, probablement, Tesla, qui c'est très profitable, mais c'est pas une compagnie, un game changer qui a mené toutes ces compagnies-là à se transformer. Puis là, maintenant, ben, Ford prend la question au sérieux et investit massivement et tente de dépasser ce rival-là américain qui est une toute petite compagnie, mais très profitable.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
LP, la semaine dernière, j'ai conduit le Tiguan 2022 parce que les modèles 2023 ne sont toujours pas arrivés. Et j'étais extrêmement curieux de conduire ce véhicule-là. Et tu vas me dire, mais pourquoi avais-tu hâte de conduire ce véhicule-là alors qu'il n'a pas changé finalement? Eh bien, détrompe-toi, il a changé pour 2022, au dire des dirigeants chez Volkswagen. Et on se rappelle que la génération actuelle du Tiguan n'avait pas la transmission la plus douce et la plus efficace, si tu veux notre avis. C'est pas mal tous un point qu'on a relevé. Et on nous a dit qu'on avait apporté des changements à la programmation de la transmission automatique, qu'on avait recalibré toute cette transmission, qu'on l'avait reprogrammée. Alors, mes attentes étaient relativement élevées et au bout de quelques kilomètres, j'ai pas eu le choix de constater que c'était la même maudite affaire.
Ouais, ouais, ouais.
Je sais pas si t'as pu conduire, toi, justement, ce Tiguan-là.
Je ne l'ai pas conduit encore, non.
Bon, ben, ne perds pas trop de temps avec ça. Et légère déception de mon côté, parce que je m'attendais à ce que, justement, on ait pu peaufiner la transmission qui, visiblement, était...
Qui affecte l'expérience de conduite. Là.
Totalement, ouais. Totalement, parce qu'elle passe au rapport supérieur beaucoup trop rapidement, comme si on voulait aller gruger des dixièmes de litre aux 100 km ici et là. Ce qu'on comprend, parce que, bon, la consommation, c'est un facteur important, mais ça nuit considérablement au comportement routier du véhicule parce que le moteur, lui, est, à mon avis, suffisamment puissant. La puissance, elle est là. mais il est handicapé par cette foutue transmission automatique.
On s'attend à plus de finesse d'un tel véhicule allemand.
Ouais, c'est très rugueux, c'est bruyant, bref. Et je m'attendais à ce qu'on ait apporté des changements. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Je glissais un mot sur la consommation. Au bout de 600 km avec le véhicule, j'ai obtenu une cote de 9,1 litres aux 100 km, ce qui est loin d'être bon pour un véhicule de cette catégorie-là. Je t'avoue que j'ai été un petit peu déçu encore une fois de ce côté-là. Sinon, pour le reste, le Tiguan demeure un Tiguan, c'est-à-dire qu'il est spacieux et c'est probablement une de ses plus grandes qualités parce qu'il continue de faire partie de ces grands VUS compacts. Ouais. Parce que les VUS compacts, justement, ont eu tendance à grandir, mais le Tiguan fait partie de ces...
D'ailleurs, le Tiguan, c'est l'un des seuls qui offre en option deux sièges à l'arrière qu'on peut mettre cette option-là pour les gens qui ne veulent pas passer à un utilitaire intermédiaire pour avoir cet utilitaire, entre guillemets, compact, ouais, mais qui offre quand même deux petites places en arrière.
Bon. Deux toutes petites places, option que beaucoup de consommateurs décident de choisir parce qu'elle coûte quelques centaines de dollars.
Oui.
Cela dit, il faut vraiment que ce soit une banquette d'appoint. Ne pensez pas y placer deux enfants, par exemple, quotidiennement, parce que c'est vraiment une banquette...
Vous allez l'entendre parler.
Ouais, c'est ça. Les petits vont chialer. Mais c'est vraiment une banquette d'appoint pour dépanner. Rien de plus. De ton côté, LP, tu t'es déplacé aux États-Unis pour conduire le GMC Hummer dans sa version VUS, modèle 2024. Tu avais pu conduire, si je ne m'abuse, la camionnette Hummer à sa sortie également.
Oui.
Qu'as-tu pensé de la version VUS?
Ben justement, exactement un an de ça, j'avais été en voyage en Arizona pour mettre à l'essai la version pick-up, la version camionnette du GMC Hummer entièrement électrique. Et puis cette année, ça a été l'arrivée de l'utilitaire. L'utilitaire qui est aussi gros que son frère, la camionnette, avec un poids. On évalue le poids à peu près 9000 livres. On ne nous a pas confirmé
livres,
parce que ça, c'est la camionnette. L'utilitaire a un poids différent à ce qu'on nous dit, c'est GMC, mais c'est 9000 livres et c'est pas moins de 9000 livres. Donc, on parle de plusieurs véhicules dans un véhicule. Je pense que la batterie pèse autant qu'il y a une petite voiture sous-compacte. Par contre, un camion qui est extrêmement tape à l'œil, extrêmement performant. On n'a pas le choix de le regarder quand il passe, même s'il ne fait pas le son d'un gros V8 ou le son du moteur qu'on connaissait, le Hummer, dans le temps.
Il y a une grande prestance quand même.
Une très grande prestance. Le style, c'est exactement le style qu'on s'attendait d'un Hummer. On ne l'a pas arrondi. C'est comme une planche de contreplaqué dans le vent quand ça avance. Donc, vous pouvez vous imaginer les efforts que ce camion-là doit faire pour être capable de garder une autonomie qui peut aller jusqu'à 480 km.
C'est tout, là.
Dans la version utilitaire,
okay,
on parle de plus de 500 km dans la version camionnette. Mais la version utilitaire, la raison pourquoi que ça se passe, c'est qu'elle est plus petite et elle a une batterie plus petite également. On ne nous a encore pas confirmé la puissance de cette batterie-là. Du côté de chez GMC, on parle de 212 kWh du côté de la camionnette. Par contre, on a un petit peu moins de modules là, du côté de l'utilitaire. Donc, on va chercher moins d'autonomie, mais également moins de puissance. On parle d'une puissance de 830 chevaux et 1200 livres-pieds de couple. C'est
ça
tout de même très
acceptable.
Respectable.
Oui, oui, oui,
oui, oui. On parlait de 1000
dans
chevaux.
Dans nos standards, c'est correct.
C'est ça. On parlait de 1000 chevaux comparativement là, à la camionnette. 830 dans le Hummer VUS édition 1 qu'on a essayé. Je disais, c'est la méga plateforme Ultium de General Motors qu'on utilise pour ce méga camion. Un hyper camion, un hyper truck qu'on a appelle chez GMC.
Pas un cyber, là, un hyper.
Hyper truck qu'on appelle chez GMC pour se différencier. Des tonnes de technologies. Je vais passer la suspension pneumatique, les quatre roues directionnelles qui peuvent s'incliner jusqu'à 10 degrés.
Ce qui permet d'obtenir la fonction crab walk.
Crab walk, exactement.
Qu'on avait vu avec la camionnette qui permet de se déplacer presque latéralement.
Oui, exactement, pour éviter certains obstacles dans des sentiers étroits que ce camion-là ira probablement jamais dans des applications civiles.
À part pour épater ton voisin, ça servira pas beaucoup, là.
Oui, exactement. 17 caméras, juste les éléments graphiques dans le système d'infodivertissement qui sont de gracieuseté du moteur Unreal qu'on connaît bien dans le domaine des jeux vidéo. Énormément de technologies pour le prix. Je trouve qu'on n'a pas le choix d'applaudir un peu le package qu'on a parce qu'on a beaucoup.
Ça coûte combien?
Tout dépendant là, du modèle, on regarde environ à l'entour de 150 000 $, mais ça commence dans les bas 100 000. Là. On parle de plusieurs variantes, mais...
Donc, c'est extrêmement coûteux, mais en même temps, c'est, 108 000, c'est ouais. une vitrine technologique exceptionnelle.
Exactement, d'accord. 108 000 $ pour un modèle de base, jusqu'à 154 000 $ pour un modèle... Off-Road Edition 1, un peu comme celui qu'on a essayé. Et puis, c'est un véhicule avec toute cette technologie-là, on regarde ce prix-là, mais on dit ben, il y a des véhicules qui en ont beaucoup moins pour beaucoup plus là, dans le marché actuel.
T'as pas l'impression qu'on fait un peu fausse route avec des véhicules comme ça? Est-ce que le consommateur moyen en ce moment, c'est ce qu'il demande, un VUS énorme qui coûte 150 000 $? Est-ce qu'on devrait pas plutôt, chez GM, se concentrer sur l'Equinox, par exemple, électrique?
C'est une excellente question que tu me poses, parce que justement, pendant l'essai, on se demandait ben, qui achète ça? Qui a besoin de ça? Premièrement, ils vont toutes les vendre. Ils ont 90 000 réservations au carnet en ce moment.
Je suis découragé.
90 000 réservations.
Je suis pas inquiet qu'ils les vendent, mais en même temps, si GM met ça de l'avant, c'est parce que ce sera extrêmement rentable.
Ben oui. Puis, ça aide à forger une marque. La marque GMC qui veut lancer toutes sortes de camions après qui sont très chers, très cossus, très qui ont beaucoup, beaucoup de prestance. Ça aide à forger la marque, de dire, hey, on est capable de faire ça. J'espère que le constructeur General Motors, dans toutes ses autres marques, va profiter et apprendre de toutes ces technologies-là et puis l'appliquer à prendre ce véhicule-là puis en faire trois avec, parce que, comme tu dis, la consommation, là, c'est entre 35-40 kilowatts.
C'est pas efficace.
Épouvantable, non.
On pourrait utiliser ce bloc de batterie-là et le scinder en trois ou en quatre.
Exactement.
Et alimenter d'autres, des plus petits véhicules. On est bien d'accord. Puis quand on entend parler de pénurie de semi-conducteurs, je ne veux même pas imaginer combien il y en a de semi-conducteurs dans un Hummer comme ça.
Ah oui.
Aux États-Unis, là, je pense qu'on a déjà commencé à livrer le Hummer dans la version camionnette. Au Canada, ce n'est pas fait encore. À quel moment on peut s'attendre de voir le VUS arriver sur notre marché? Un peu plus tard cette année ou ce moment-là n'a pas été défini?
Non, je sais pas encore cette donnée-là pour la version utilitaire, mais ça devrait pas tarder ces nouvelles-là du côté de chez GMC, parce que justement, avec toutes ces réservations-là, puis je vais terminer avec une statistique qui est très intéressante sur les 90 000 réservations. 70 % sont des premiers acheteurs de véhicules électriques. Ils n'ont jamais eu de véhicules électriques auparavant, donc on développe tout.
C'est drôle, j'aurais pensé que c'était tous des acheteurs de Mitsubishi et Miel.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Louis-Philippe, tu le sais, il y a beaucoup d'actualités automobiles, mais j'ai l'impression que le domaine de la technologie dans l'automobile, ça grouille encore plus. Et pour en parler, on reçoit un habitué de l'émission maintenant, je pense. Bonjour, Mathieu Roy.
Il va falloir que je vous arrête immédiatement.
Comment ça?
Mon alarme de sieste vient de partir.
OK, Google. Arrête l'alarme.
Ouais, ça serait bon de garder ça.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour, messieurs.
Tu reviens tout juste de ton premier événement de conduite avec un manufacturier automobile. Tu as pu conduire avant nous-mêmes la Hyundai Ioniq 6. On sait qu'il y a un embargo sur les impressions de conduite, mais tes premières impressions du véhicule en général, c'est quoi? Comment tu as aimé la voiture et l'événement?
Ah ben moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle avait un super look. Je suis embarqué dans le véhicule et là déjà j'ai remarqué que bon l'assise était peut-être un petit peu plus haute chez certains constructeurs, donc j'avais le dessus de la tête là qui flirtait avec le plafond et en arrière on y pensait même pas là, j'étais un petit peu plus inconfortable, mais cela dit, j'ai vraiment aimé ce véhicule là.
C'était grand, Mathieu, il faut le dire là.
Je suis grand et j'avais un bon toupette aussi là, dans une vidéo qui a été publiée sur les médias sociaux là, d'Antoine notamment. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, hein, il y a un embargo sur nos impressions liées à la conduite. Mais qu'en est-il de mes impressions liées à l'assistance à la conduite sur autoroute?
Excellente question, ça!
Parce que nous l'avons essayé, Antoine et moi, et tu sais comment Antoine peut être nerveux derrière le volant lorsqu'il n'est pas en plein contrôle. C'est intéressant. Moi, je suis un enthousiaste devant ce genre de nouvelles technologies. Antoine est prudent, disons, mais force est d'admettre que le nouveau système qui fait notamment le changement de voie automatiquement à la simple, au simple déclenchement du clignotant était diablement efficace. On a roulé dans des conditions quand même assez intéressantes. On était sur l'autoroute à Vancouver, faisait beau soleil, mais ces conditions-là existent aussi au Québec. Donc, non, pour vrai, ça fait partie des nouveautés du véhicule, c'est-à-dire une bonification de son assistant à la conduite. Et vous comprenez que je fais attention, hein, je ne parle pas de conduite autonome. D'ailleurs, on en parlera davantage au cours de cette même chronique, mais non, j'ai beaucoup aimé ça. Plusieurs technologies intéressantes, comme la possibilité aussi, c'est une première chez Hyundai, de faire des mises à jour à distance. C'est ce qu'on appelle OTA, c'est Over the Air. Donc, un problème à résoudre dans le système des menus ou encore certains problèmes même de liés à la configuration du véhicule, eh bien, plutôt que d'aller chez le concessionnaire, on peut faire des mises à jour comme ça à distance.
Mais on n'a rien inventé. On fait ça depuis des années chez Tesla, par exemple.
Exactement, exactement. Dans certains cas, les constructeurs n'ont pas le choix. C'est qu'ils ne peuvent pas être les premiers dans tout. Donc, certains cas, écoute, ça me fait penser au monde des téléphones cellulaires. C'est-à-dire que certaines compagnies vont être les premiers dans certains trucs et par la suite, certains standards ou certaines options vont être disponibles chez d'autres fabricants. C'est du copier-coller de ce que j'ai déjà vu, par exemple, Apple versus Android. Tu sais. Ce que j'ai trouvé bien intéressant aussi, c'est la compatibilité de cette voiture avec les fameuses bornes 350 kW. Évidemment, pour l'instant, c'est encore des bancs d'essai. Là. Cherchez pas les bornes 350 kW au Québec, mais on s'en reparlera dans 3-4 ans. Il risque d'en avoir pas mal plus sur le chemin.
Il y en a déjà quelques-unes, mais c'est très embryonnaire là, ce qu'on a.
Écoute, on peut les compter sur les doigts d'une main, ça c'est certain.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour une autonomie fort intéressante, soit dit en passant, là, parce que cette IONIQ 6-là peut avoir une autonomie jusqu'à 581 km, ce qui est quand même pas rien, là, on flirte avec le 600 km, eh bien, pour passer de 10 % de la batterie à 80 % de la batterie avec une borne 350 kW, eh bien, on attendrait que 18 minutes environ, ce qui est quand même assez impressionnant. Là. 18 minutes, c'est le temps de faire un petit arrêt, commander un café... et laisser éliminer l'autre. Et c'est
ça te donne le temps de faire un essai avec les écrans et les diverses fonctions du système d'infodivertissement.
Et on n'a pas rien inventé là non plus. Si vous êtes familier avec le système d'infodivertissement de la IONIQ 5, on est encore avec des écrans de 12,13 pouces. Et ce sont des écrans avec un format qui sont marginal. Hein? C'est-à-dire que les écrans sont quand même assez larges et vraiment pas très hauts, ce qui fait en sorte que bon, on a une espèce de long rectangle. Et encore une fois, ce que je reprochais à la IONIQ 5, je le reproche aussi à la IONIQ 6, c'est-à-dire que le menu qui vient d'office, là, le système d'opération, est difficile à naviguer. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, vous êtes sur l'écran d'accueil et vous n'avez pas 8 ou 10 icônes, vous avez 12 icônes sur lesquelles vous pouvez presser, puis il y a des pages supplémentaires. Donc, moi, je trouve que la charge mentale, ça devrait être au cœur du développement des interfaces. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on ne met peut-être pas tous les efforts pour simplifier justement visuellement ce qu'on nous propose chez les différents fabricants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des interfaces qui sont difficiles à naviguer.
On se rappelle qu'avec la Hyundai IONIQ 5, tu avais fait cuire des toasts grâce à la recharge inversée. Est-ce que tu as pu expérimenter quelque chose de similaire avec la IONIQ 6?
Même chose, on a une prise assez puissante qui est derrière, en fait, sous les bancs des passagers arrière. Et encore une fois, il y a ce système qu'on appelle le V2L, ce qui permet à la voiture à l'extérieur de pouvoir justement alimenter d'autres périphériques, là, que vous soyez en camping, une machine à expresso, vos ordinateurs, un téléviseur ou peu importe. Dans l'annonce, on voit justement Christopher Le Temps qui va brancher le système de lumière de la patinoire avec, si je ne m'abuse, ou du restaurant, tout le moins, avec justement la prise V2L de la IONIQ. Donc, ça, je trouve ça intéressant. C'est pas un must, mais si on en a besoin, c'est très, très pratique à avoir. Puis évidemment, ben, tu sais, il y a tout le système aussi d'applications maintenant qui sont connectées avec le véhicule. C'est comme une extension du véhicule où vous pouvez avoir le niveau de recharge, la planification de charge. Et ce que j'aime aussi, c'est le préconditionnement de la voiture. Donc, dans des cas, par exemple, où la température est plus froide, vous préconditionnez, oui, l'intérieur, mais aussi la batterie du véhicule, ce qui fait en sorte que vous allez être plus efficace lorsque vous allez prendre la route. Et vous avez peut-être remarqué le design assez intéressant à l'intérieur de la IONIQ 6. Vous regarderez le tableau de bord, là, mais c'est comme s'il se prolongeait jusqu'aux extrémités et que les extrémités continuaient de courber, comme s'il y avait des espèces d'ailettes à gauche et à droite du tableau de bord. Et c'est intéressant parce que ici, au Canada, ces espèces d'ailettes-là sont en plastique, mais dans certains endroits, notamment en Corée, ces ailettes-là sont en fait des écrans parce qu'il n'y a plus de rétroviseur gauche-droite, ce sont des caméras et ben, les écrans que vous avez au lieu des ailettes, finalement, ça vous montre finalement ce qu'il y a sur les côtés et derrière vous. La caméra a l'avantage, bien entendu, de pouvoir capter un plus grand angle et de faire de la détection, bien sûr, d'obstacles, mais il va falloir s'habituer à ça parce que c'est pas évident. Moi-même, ayant une caméra dans mon rétroviseur arrière, je trouve ça bizarre d'avoir, par exemple, toute la circulation qui est en arrière de moi, mais de pas voir le reflet de mes enfants dans le rétroviseur. Il y a quelque chose d'un peu fantomatique dans ça, là, parce qu'on est tellement habitué d'avoir un visuel, non pas de caméra ou d'écran, mais un visuel de miroir.
Ben oui, j'imagine qu'on s'habituera, là.
Absolument. Puis la législation, pour l'instant, ne le permet pas ici. Mais encore une fois, souvent, le technologique va beaucoup plus vite que le législatif.
Ben oui, on a remarqué le design de la IONIQ 6. Puis en Corée du Sud, ce sont des petites caméras qui sont utilisées pour les rétroviseurs extérieurs. Tandis qu'ici, c'est les rétroviseurs conventionnels, comme tu as dit. Et puis, on a remarqué également que les spécifications, par exemple, le coefficient de traînée est légèrement modifié sur le véhicule. On parle de ces caméras-là, sont très aérodynamiques. Et puis, elles ont été faites dans la raison pour avoir un peu plus d'autonomie. Mais je veux revenir à ce que tu disais dans le tableau de bord, qui a un design assez unique, Mathieu. Tu as remarqué également que Hyundai veut conserver des boutons physiques également pour ne pas nécessairement tout donner cette charge mentale-là à travers l'écran.
Oui, ouais, je sais, puis c'est intéressant parce que pour moi, ça me semble être une évidence que le bouton physique ne peut pas tout remplacer, puis je l'ai répété souvent, j'aime la technologie, mais je demeure quand même lucide et quand même sceptique lorsqu'on veut tout remplacer par des écrans. L'écran n'est pas une solution à tout, surtout quand l'interfaçage qu'on nous propose ou l'interface qu'on nous propose n'est pas adéquat. J'ai vu une belle utilisation à un moment donné, c'est dans la Lucid Air, sauf erreur, c'était une espèce de bande verticale pour augmenter le chauffage de la voiture. À partir du moment où j'appuyais sur la bande de chauffage, j'avais pas besoin de glisser mon doigt spécifiquement dans cette espèce de couloir vertical pour augmenter le chauffage. C'est que tout l'écran devenait un peu plus sombre et le bouton devenait surdimensionné. Ça devenait beaucoup plus facile de monter, baisser le chauffage. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu mon explication.
Ça concentrait ton action. Là. On voyait exactement que seulement qu'est-ce que tu voulais accomplir. Oui, comme ça, oui. Tu n'avais pas besoin d'enlever tes yeux de la route pour trop longtemps.
Exactement, parce qu'en ce moment, ce que je reproche à plusieurs tablettes, c'est que c'est beaucoup trop petit. Et même si vous n'avez pas besoin de lunettes, vous n'avez pas de problème de vue, on est en train de conduire. On ne devrait pas être en train, par exemple, de devoir avoir des doigts en cure-dent pour être capable d'aller appuyer sur tel ou tel bouton. Ouais. Moi, une roulette de volume, là, ça fait encore parfaitement le travail. Donc, en anglais, ils disent « if it ain't broken, don't fix it ». Je vois pas pourquoi on remplacerait le bouton du volume pour ça. Certains boutons de chauffage ou de climatisation, je crois qu'ils ont encore peut-être leur place, des boutons physiques. Et là, des fois, on dirait qu'on n'arrive pas à se brancher. On a des espèces de boutons qui sont physiques parce qu'ils sont là et ils peuvent pas être changés. C'est pas un écran, mais c'est pas un bouton pression. Faut simplement effleurer le bouton pour pouvoir le mettre en action ou non. Et là, c'est que ça fait 3-4 sortes des fois oui. D'interactions qu'on peut avoir avec le véhicule. À mon avis, c'est peut-être un peu trop. Des boutons physiques, donc des boutons pression ou des roulettes, et un écran. Je pense qu'avec ça, on devrait être capable, si on travaille bien, de faire des interfaces qui ont beaucoup de sens. Parce que je sais qu'il y en a des persistent et signes disent que les boutons physiques vont demeurer. Mais moi, je crois beaucoup en, justement, un espèce d'habile mélange entre les deux. T'sais. Et il y aura peut-être aussi des boutons physiques qui seront hybrides. C'est-à-dire que tantôt, le bouton servira pour le volume, tantôt, servira-t-il pour pour le chauffage. Donc, déjà, il y a des interfaces qui font ce genre de combinaison-là. Mais ce qu'on est en train de vivre là, le monde de l'aérospatial le vit aussi, parce que dans les capsules Dragon de SpaceX, beaucoup des boutons physiques ont été remplacés par des écrans tactiles. Donc, peut-être que la combinaison est à quelque part entre les deux, là. Donc, des boutons paramétrables ou la cohabitation des deux, parce que pour vrai, si vous êtes sur des routes moindrement accidentées, ça devient difficile des fois, avec à bras levé comme ça, de naviguer sur une tablette dans le milieu du passager, du conducteur.
Et je te confirme que la saison des nids de poule est déjà bien entamée. Tu te rappelles peut-être, Mathieu, ou en tout cas Louis-Philippe, lui s'en rappelle certainement, la précédente génération de la Honda Civic, on avait retiré la roulette pour augmenter ou diminuer le son, et ça avait tellement fait réagir qu'on l'avait rajouté par la suite parce que c'était incomplet sans cette fonctionnalité-là.
Ouais, j'en doute pas. Puis non, de toute façon, c'est que tu as une mémoire aussi de ces boutons-là physiques. Tu sais où ils sont, tu sais qu'en mettant la main sur ça et en le tournant, ça va avoir une action. Donc, ce qui n'est pas le cas avec la tablette, il faut que tu ailles placer ton doigt puis que tu ailles monter. Donc, pour vrai, oui, mais pas pour tout. Puis, de grâce, le moins d'icônes possible et des chemins pour arriver à ce qu'on cherche extrêmement courts. Normalement, là, en trois pressions, en trois clics, entre guillemets, on devrait être capable d'arriver à ce que l'on cherche. Faites-moi pas chercher pendant 5, 6 ou 7 pages, comme c'est le cas dans certains véhicules, là.
Moi, Mathieu, je pense que tu l'as bien saisi. Puis, je pense que Hyundai puis certains autres constructeurs, qu'est-ce qu'ils devraient faire, c'est les commandes qu'on utilise le plus souvent. Les sèche-chauffants, le volume, les diverses commandes qu'on va utiliser plusieurs fois à travers un trajet devraient garder le maximum de caractère physique. Et puis les autres commandes, bien, on peut aller dans un petit peu plus compliqué puis un petit peu plus profond dans l'interface du système d'infodivertissement.
Ouais, l'autre chose aussi, c'est qu'éventuellement, il y a beaucoup de ces options-là qui seront simplement aussi activées, désactivées par la voix. Parce que avec les Apple CarPlay 2 qui s'en viennent, avec Google qui n'a pas l'intention non plus de regarder le train passer, vous allez avoir justement des assistants personnels qui vont être diablement efficaces. C'est déjà le cas dans certains véhicules, là. Je veux dire, vous n'avez qu'à demander au véhicule de mettre le chauffage à telle température, d'activer le banc chauffant ou tantôt la climatisation, de mettre la radio à tel poste. Et tout ça se fait très bien, simplement avec une commande vocale.
Tu nous parlais tantôt de mise à jour sans fil avec la IONIQ 6. C'est quoi les avancées de ce côté-là que tu as observé?
Ben honnêtement, pour eux, c'était une première, mais c'était à peu près tout. Là, c'est-à-dire que ils ont proposé justement, là, ils ont dit que c'était une première chez Hyundai que à travers justement le système over the air, ils allaient pouvoir faire des mises à jour sans préciser exactement lesquelles. Moi, j'ai posé la question, est-ce que ce genre de technologie-là pourrait aussi être utilisé pour bonifier l'assistant à la conduite sur autoroute? On ne m'a pas répondu pour l'instant, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un échange comme ça d'informations, parce que comprenez bien que les assistants à la conduite vont nous mener à la conduite autonome, et plus les voitures sont capables de partager entre elles des scénarios, plus évidemment l'intelligence artificielle qui contrôle la conduite autonome va s'améliorer. On le fait déjà avec plusieurs compagnies de véhicules qui sont autonomes. On appelle ça un apprentissage en essaim. Et quand une voiture rencontre un scénario et qu'elle peut le partager à l'ensemble de la flotte, ça fait qu'on apprend diablement vite, là.
Mathieu, je suis content que tu nous parles de ça, parce que justement, un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est la compagnie Waymo qui a introduit un code de conduite pour automobile autonome, pour véhicule autonome. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Ben en fait, c'est littéralement un engagement encore très sincère et profond de la part de Google. Faut savoir que Waymo, c'est ce qu'on appelait avant les Google Cars. Maintenant, leur division s'appelle Waymo. Et eux, on n'en entend pas beaucoup parler pour une raison assez simple, c'est qu'ils ne font pas beaucoup jaser pour les mauvaises raisons. Moi, je m'intéresse bien sûr à ces technologies-là de mon côté très techno. Donc, je vois souvent arriver comme ça et voir des jalons qu'ils ont traversés, le premier million de mille, les nouvelles villes dans lesquelles leurs voitures sont déployées. Et force est d'admettre que j'ai pas lu souvent que les voitures de Google, les voitures Waymo, étaient impliquées dans des incidents ou des accidents. Donc,
c'est de très bonnes nouvelles, ça, en passant.
Ben, effectivement. Et c'est sûr que dès qu'on entend parler de voitures autonomes et d'un potentiel accrochage ou accident, ça frappe l'imaginaire. Et par définition, une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Alors, quand c'est une voiture, fait ce qu'elle a à faire, on n'en parle tout simplement pas. Mais quand il y a accident dans ce genre de technologie-là, bien sûr que ça fait jaser parce que on veut que la voiture autonome soit pas seulement meilleure que l'être humain dans la conduite, on veut qu'elle soit irréprochable parce que c'est pas demain la veille qu'on va être prêt à accepter que quelqu'un est décédé à cause d'une voiture autonome. On dirait qu'on sera pas prêt à accepter ça, alors que malheureusement, dans des accidents de la route, le facteur humain est la cause de plus de 9 accidents sur 10. Là.
Donc, est prêt à pardonner à l'humain, mais pas à la technologie. C'est ce que je comprends.
Ben, c'est aussi ma perception à moi. Puis si vous écoutez de votre petite voix intérieure, ça n'a pas de sens. On dirait qu'on n'est pas prêt à accepter ça tout de suite et maintenant. Sauf que ce qui est intéressant, et ce que Waymo a fait, c'est qu'ils ont publié un exemple de dossier de sécurité. Donc, c'est juste pour faire avancer le débat public pour les véhicules autonomes. Et la conversation doit avancer et doit être prise au sérieux parce que les voitures sont là, il y en a des disponibles, ça roule dans le monde. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Comment est-ce qu'on peut les faire accepter du grand public? Parce que tantôt, je disais que le législatif est beaucoup plus lent que le technologique, mais notre capacité à accepter ces nouvelles technologies-là, c'est plus lent que la vitesse à laquelle ces technologies-là avancent. Même nous, on n'est pas encore tout à fait prêts. Donc, Waymo, ce qu'on veut faire, c'est démontrer que la conduite autonome, elle est sécuritaire. Et ils ont fait un document, une espèce de gros dossier de sécurité pour l'exploitation des véhicules autonomes qui devrait servir à l'ensemble des constructeurs ou des compagnies de technologie dans ce secteur-là.
Donc avant de se faire imposer des lois ou des règlements, ben Waymo est proactif finalement et propose son propre petit guide.
Oui, exactement. Puis ils veulent aussi, dans le fond, essayer d'essayer d'éliminer cette espèce de confrontation qu'ils ont, une espèce de méfiance des autorités via les voitures autonomes, via ces technologies-là. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer la sécurité des gens lorsqu'on crée ce genre de véhicule-là. On veut aussi peut-être parfois pallier un manque de main-d'œuvre dans certains domaines. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant qu'ils aient pris le taureau par les cornes. Et après ça, ben là, c'est d'arriver et d'expliquer et de vulgariser comment, par exemple, une entreprise va déterminer qu'un système autonome est assez sécuritaire pour être déployé sur les routes publiques, là, mais sans conducteur humain. Donc, eux, ils ont fait un gros document d'une trentaine de pages, évidemment que j'ai regardé un peu en diagonale, mais c'est franchement intéressant de comprendre aussi qu'il y a des concurrents qui développent des technologies similaires qui ont souligné et applaudi ce que Waymo a fait. Waymo, c'est un peu et beaucoup Google. Fait que quand un géant comme ça prend des actions, prend parole, ben écoutons-le, voyons ce qu'ils ont à proposer. Prenons pas tout pour du cash, permettez-moi l'expression. Permettons-nous de questionner, de voir aussi comment les pairs réagissent à ça. Mais après ça, je pense que on peut très certainement se nourrir de ce qu'une des entreprises qui a le plus d'expérience a à nous dire, parce que c'est plus de la science-fiction, la conduite autonome. Pour être embarqué dans un véhicule, il y a déjà quelques années, dans les rues de Las Vegas, où il n'y avait aucun chauffeur, personne assis derrière le banc du conducteur, c'est quand même assez déstabilisant.
Sachant que les gens peuvent être en état d'ébriété parce que c'est une ville de fête, Las Vegas, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement. Là.
Ben écoute, tu vas enfin pouvoir finir d'écouter ta série en faisant Québec-Montréal, en faisant peut-être un petit roupillon.
J'attends que ça parce qu'il me reste quelques épisodes de l'Auberge du Chien Noir.
Ben, c'est ça. Mathieu, j'ai plus qu'un Québec-Montréal pour finir ça, mais ce qui est intéressant, c'est que là, Google met un petit peu de pression dans le camp des régulateurs, finalement, parce que la perception de l'auto-autonome s'est un peu dégradée récemment avec des compagnies qui ont peut-être voulu aller un petit peu trop vite et surtout des compagnies comme Tesla qui appellent ça l'autopilote, alors que c'est pas encore un autopilote, c'est pas encore de la conduite autonome ce qu'on retrouve sur nos routes, sur les véhicules, c'est de l'assistance à la conduite parce que on demande toujours, encore et toujours, aux conducteur, à celui qui est derrière le volant, d'être attentif à son environnement. Éventuellement, il y aura une façon de rouler dans laquelle, à partir du moment où on va enclencher l'autopilotage, eh bien là, à partir de ce moment-là, la responsabilité ne sera plus celle du conducteur, mais celle du constructeur.
Mais Mathieu, on parle beaucoup dernièrement là, avec les nouveautés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Hein, on parle de ChatGPT, etc. Puis le mot éthique revient souvent. Et ouais. Puis avec la conduite autonome comme ça, par exemple le code de conduite, où est-ce qu'on est rendu dans cette éthique-là du côté de l'automobile?
Écoute, moi, j'ai fait un petit test éthique, justement, que le MIT a publié sur son site, que vous pouvez aller consulter encore parce que les études sont terminées, mais le quiz est encore disponible. Et je pense, Germain, que tu m'as déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle « The Moral Machine ». Et on nous place littéralement dans le cerveau de la voiture autonome qui doit prendre une décision. Alors, Louis-Philippe, je te pose la question, et c'est le genre de questions qu'on retrouve dans le quiz. C'est des questions binaires. Tu réponds un choix ou l'autre. C'est extrêmement confrontant, très malaisant. On se sent pas bien quand on
comme
répond
quoi?
À ce quiz-là. Alors, le quiz, c'est est-ce que tu tues les deux habitants, les deux passagers de ta de la voiture autonome, ou encore tu les sauves, mais en changement de voie, tu tues quatre personnes qui traversent la rue.
Oh mon Dieu!
C'est vois, donc, c'est des confrontations comme ça. Personne par personne, conducteur passager versus piéton, piéton âgé, piéton tout jeune, piéton qui ne respecte pas la signalisation routière versus cinq piétons qui la suivent. Écoute,
Ça fait beaucoup réfléchir.
Oui, puis évidemment, la voiture autonome devra être soumise à certaines règles éthiques. Jamais on ne devra prioriser des animaux ou encore du matériel urbain. C'est-à-dire que...
Puis ça, on l'a vu avec des conducteurs que j'oserais appeler traditionnels, des humains. L'histoire avec la famille de canetons qui traversait, ou la famille de canards qui traversait, il y a eu tout un débat autour de ça, là.
Ouais, mais en fait, c'est sûr que le scénario n'était pas exactement le même, mais oui, effectivement, c'est-à-dire que jamais, mettons, si un humain pourrait dire ah non, je vais pas rentrer dans le poteau, il va plutôt, aller vers l'autre voie, alors que dans l'autre voie, il y avait peut-être un véhicule, une voiture. La voiture autonome, elle prioriserait le poteau de lumière versus changer de voie de manière un peu maladroite, tu sais. Donc, c'est le genre de choses que certains pays demandent aux constructeurs de gérer et sur lesquels s'attarder immédiatement. Et ça va se faire, ça se fait, tu sais. C'est tout à fait logique, je veux dire. Tu vas aller frapper, par exemple, justement, tu sais, le mobilier urbain, si ça peut sauver la vie du conducteur et des passagers du véhicule. Ça me semble être bourré de sens, sauf que la machine doit être entraînée à le faire aussi.
Et avoir ces réflexes-là, finalement.
Oui, mais ça va. C'est pas un problème pour la voiture que de faire de l'analyse de contexte. C'est ça l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se nourrit de données, là, tu sais, puis des données, elle en reçoit des tonnes, en analyse des tonnes aussi, pas mal plus que nous autres, et surtout, c'est que son attention, elle est constante, elle est pas distraite, la voiture autonome, et elle voit bien mieux que nos deux yeux, que lorsque nous sommes derrière le volant. Non seulement elle voit plus loin en avant, elle peut voir à travers des brouillards et elle voit aussi à 360 degrés. Elle voit dans une espèce de demi-sphère autour de la voiture. Je vous dis, c'est...
Elle n'est pas fatiguée non plus. Elle n'a pas de sentiments ou d'émotions. Tu sais, tout est analysé beaucoup plus froidement. J'appréhende quand même un peu le moment où on devrait se côtoyer des véhicules traditionnels et des véhicules dotés de cette technologie-là. Ouais. Parce que le jour où tous les véhicules pourront se parler et communiquer entre eux, parfait. Mais lorsque j'arriverai sur la métropolitaine en Chrysler Le Baron 1980, mais ça se peut que la communication ne puisse être établie entre ma voiture et ce vaisseau spatial.
Hey, là je vais dire quelque chose d'épouvantable.
Vas-y.
Mais, on dirait que ton exemple... C'est exactement le même exemple lorsque les calèches et les voitures ont eu à cohabiter ensemble.
C'est vraiment intéressant, mais c'est vrai.
je comprends très bien. Puis même si j'en parle beaucoup, même si ça me fascine, faut demeurer lucide par rapport à ce que c'est pour l'instant. J'aime beaucoup ça. J'aime m'y intéresser. J'aime essayer de comprendre. J'aime en parler parce que c'est important d'en parler, même si on comprend pas exactement comment fonctionne le cerveau de l'intelligence artificielle qui conduit, entre guillemets, la voiture, faut pas être surpris que ces technologies-là s'en viennent. On ne peut pas être surpris par l'arrivée des voitures autonomes. On en parle depuis trop longtemps. Il y a trop de gros joueurs en ce moment qui travaillent là-dedans. On a déjà parlé des constructeurs automobiles qui ont changé de vocation. Ce ne sont plus des fabricants de voitures. Ce sont des compagnies de transporteurs de personnes. Et c'est la nuance, elle est énorme entre les deux là. C'est-à-dire que la possession même d'un véhicule, peut-être qu'à un moment donné, va être
ça devient désuet. Oui.
Ben désuet, il y a toujours des gens qui vont vouloir avoir leur véhicule, bien sûr. Comme bien des
Mais ce
gens.
Ce sera un concept. Ce sera un concept qui va être amené à être dépassé, j'en suis
conscient. Imaginons le Bixi. On veut tous avoir son propre vélo, mais en même temps, il y en a plusieurs qui sont prêts à ne pas s'acheter un vélo parce que c'est plus pratique d'utiliser un Bixi qu'ils prennent au coin de leur rue puis qu'ils mettent dans une autre aire de service plus loin, proche de leur travail. Absolument. Parce que la voiture deviendra quelque chose comme ça ou le minibus ou peu importe. Il y a plein d'options parce que tout est à faire en ce moment. Et on est dans un monde où le logiciel et le matériel sont extrêmement avancés, évolués. C'est un bon temps pour être en vie côté technologie.
Il y a l'année dernière, en fait, Mathieu, on soulignait le 25e anniversaire du jeu vidéo Gran Turismo, auquel on a tous joué parce qu'on est des passionnés d'automobile. Cette année, on arrive avec un nouveau casque de réalité virtuelle.
Oui, chez PlayStation, qui s'appelle le PlayStation VR 2. Et a priori, le jeu Gran Turismo ne se joue pas avec un casque de réalité virtuelle. Mais là, on a fait une mise à jour pour être compatible avec ce casque-là. Et j'en ai fait l'essai. Et j'avais déjà vu, j'ai déjà essayé des simulateurs, où on a trois écrans, un écran en face de nous et puis deux écrans latéraux où on a une espèce d'immersion, là, c'est-à-dire qu'on est capable de se tourner la tête puis de voir dans l'écran de gauche ce qu'il y a à notre gauche, de l'écran de droite ce qu'il y a à notre droite, un peu comme si c'est des écrans, hein, ce sont des rectangles dans lesquels on affiche ce qu'il y a techniquement autour de nous. Le casque de réalité virtuelle, comment je dirais ça? Ça marche bien en tabarouette. J'étais assis là et écoute, j'étais assis sur une petite chaise un peu ridicule. Je n'étais pas du tout dans un simulateur. Mais le fait d'avoir le casque, de voir mes mains comme ça en avant de moi sur le volant et juste de me tourner la tête pour pouvoir regarder dans le miroir ou encore la tourner davantage puis regarder mon angle mort, ça créait une immersion complètement différente. C'est une bonification et tu te dis, OK, c'est comme ça qu'un jeu de voiture doit se jouer. C'est vraiment le fun, les écrans, et je peux revenir à cette façon de jouer. Mais je vais toujours avoir en tête, ça serait mieux avec un casque. Ça serait mieux si j'avais la possibilité de jouer en réalité virtuelle. Parce que se tourner la tête pour regarder un écran, c'est pas la même chose que se tourner la tête et que l'écran qu'on a devant les yeux nous affiche ce qu'il y a dans le monde virtuel à notre gauche ou du côté ou à notre droite. Il y avait de quoi que j'ai vraiment aimé. Puis, tu as parlé de Gran Turismo en disant, parce qu'on est des tripeux de voitures, Gran Turismo, c'est ni plus ni moins qu'une encyclopédie du monde de l'automobile. Vous avez là-dedans des documents extrêmement précieux, des modélisations 3D, des sons qu'on aurait peut-être perdu avec le temps, n'eût été justement de cette espèce de pérennité qu'on retrouve dans le jeu. Et ça devient quand même assez intéressant d'être assis à l'intérieur du véhicule, de regarder à gauche, à droite, le tableau de bord, regarder ses pieds en haut, le plafond, la décapotable, le cas échéant. Mais je pense que ça va être à ce point raffiné un jour que la simulation de conduite va être très intéressante aussi pour des véhicules historiques.
Donc, le jeu, on l'aime beaucoup, mais tu es un peu en train de nous dire que cette application-là, cette technologie-là peut servir à toutes sortes d'autres domaines, comme par exemple la modélisation, un mot que tu as utilisé tantôt, pour les constructeurs, développer des habitacles, le sens de l'orientation, un peu l'exactitude de ce monde-là que créer la voiture peut être encore plus représentée là, virtuellement par ce casque-là. Puis là, ça a toutes sortes d'applications après ça, là.
Il y avait une voiture de BMW, je crois, qui n'avait pas été présentée encore. On avait vu justement là, quelques photos, des choses du genre. Et puis au Consumer Electronics Show, on m'avait fait voir cette voiture-là en réalité virtuelle. C'est-à-dire que j'avais le casque. C'était pas une reproduction absolument extraordinaire, mais quand même, j'étais dans une pièce vide avec le casque. Je pouvais me promener autour du véhicule et je voyais en avant de moi le véhicule avec sa taille telle qu'il devrait avoir, ce véhicule-là, dans la vraie vie. Et je pouvais même, ils avaient placé une chaise dans le milieu de la salle sur laquelle je pouvais m'asseoir et je me retrouvais à l'intérieur du véhicule. Donc, effectivement, même pour du prototypage, on peut dire, bon, ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace pour les jambes, trop d'espace. Évidemment, du prototypage là, de vraiment de début, là, parce que éventuellement, il va falloir avoir une sorte de maquette pour avoir la véritable impression. Mais de plus en plus, effectivement, on est capable d'aller chercher des commentaires pour des phases très embryonnaires dans la construction d'un nouveau véhicule ou encore dans la présentation. Mais c'est sûr que ce casque-là peut servir, bien sûr, aux pilotes, peut servir aussi aux étudiants en conduite. Et la simulation devient de plus en plus immersive.
Tu te rappelleras peut-être, sur le guide de l'auto 2020, on pouvait scanner avec notre téléphone un code barre et ainsi voir en, j'oserais dire, réalité virtuelle, un véhicule.
Presque. C'était en réalité augmenté.
Augmenté, voilà.
Oui, exact. Mais la ligne est mince entre les deux. Mais d'ailleurs, l'industrie de l'automobile embrasse toutes ces technologies-là. En ce moment, je suis en train de te parler de réalité virtuelle, donc l'automobile qui fait son entrée dans les jeux en réalité donc virtuelle. Mais inversement, l'industrie automobile est aussi en train de prendre des technologies de réalité augmentée pour les afficher en surimpression à ce qu'il y a vraiment devant nous, notamment pour des systèmes de navigation qu'on a vu entre autres dans la Mercedes et combien d'autres. Et c'est fort intéressant lorsque c'est utilisé à bon escient.
Mathieu, un grand merci pour ce survol techno et j'espère qu'on se reparlera très bientôt.
Ben écoute, ça sera après ma partie de Gran Turismo.
Ah, c'est parfait ça!
Cube Radio.